quelle raison dites-vous si souvent de Nathan Zuckerman qu'il est un fantôme?
Parce qu'il se voit lui-même comme un fantôme. Il n'est plus présent dans le monde. Et quand il revient dans le monde, quand il arrive à New York, le centre du monde, il ne parvient pas à surmonter l'épreuve.
Philippe Roth.
C'est une épreuve trop déchirante pour lui et pour ses forces qui ont diminué.
Ça peut pas faire de mal.
Il essaie de retrouver sa virilité. Le côté agressif de sa virilité est mis en question par le jeune biographe Richard Clayman, alors que le côté érotique de sa virilité est mis en question par la jeune et jolie Jamie Logan. Mais il n'a plus la force virile suffisante pour aucun des deux.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
L'écrivain, c'est celui qui fournit l'étincelle. Sa machine à écrire est comme une poubelle. Il y verse des ordures, puis du pétrole, puis des ordures à nouveau, et quand vient le moment, il jette une allumette. Le feu prend si ce sont ses ordures à lui, et si c'est un artiste. Telle est la recette d'écriture du désormais célèbre Philippe Roth. En près de 40 ans de carrière, le romancier américain a écrit 29 romans, dont la plupart sont des best-sellers. Ce lecteur de Camus, Turgenev ou encore Shakespeare qu'il place au-dessus de tous, explore dans ses livres les sombres obsessions des hommes. De Nathan Zuckerman à Alexandre Portnoy, de David Kepesh à Coleman Silk, ou encore de Peter Tarnapol à Mickey Sabat, autant de héros extravagants sortis de l'imagination turbulente de l'écrivain et qui sont ses alter ego de papier. Nous allons aujourd'hui les découvrir à travers le thème de prédilection de Philippe Roth, le désir, ou plus précisément le sexe. Et pour cela, j'ai demandé à un ami de venir. C'est un homme qui a la voix la plus virile et en même temps la plus gentille que je connaisse. C'est Patrick Bruel. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Goodbye Columbus. C'est à l'âge de 26 ans que Philippe Roth publie son premier recueil de nouvelles sous le titre Goodbye Columbus. Nous avons choisi de présenter un extrait de la nouvelle éponyme. Neil Klugman, jeune bibliothécaire à Newark dans le New Jersey, vit avec son oncle et sa tante. Invité au Green Lane Country Club par sa cousine, il fait la connaissance de la jolie Brenda au bord de la piscine. Les voici 15 jours après leur rencontre, en même lieu et place.
Il faisait nuit noire, le ciel était bas et sans étoiles. Il me fallut un certain temps avant d'apercevoir le plongeoir, un ton plus clair que la nuit et de distinguer l'eau des chaises qui entouraient l'autre bout du bassin. Je défis les bretelles de son maillot de bain, mais elle dit non et roula à quelques centimètres de moi. Pour la première fois, elle me posa une question me concernant.
Où sont tes parents ?
À Tucson, dis-je. Pourquoi ?
Ma mère me l'a demandé.
Je voyais la chaise du gardien à présent, presque blanche.
Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi n'es-tu pas avec eux ?
Demanda-t-elle. Je ne suis plus un enfant, Brenda. Dis-je d'un ton plus coupant que je ne l'avais prévu. Je ne peux pas suivre mes parents partout où ils vont.
Je me demandais pourquoi tu ne vivais pas avec tes parents, c'est tout.
Tu as froid ? Demandai-je.
Non.
Tu veux rentrer ?
Non, sauf si tu as envie. Tu ne te sens pas bien, Neil ?
Je me sens très bien. Et pour lui montrer que j'étais toujours moi-même, je la serrais contre moi, bien que je fusse à ce moment-là sans désir.
Neil ?
Quoi ?
Neil, est-ce que tu m'aimes ?
Je ne répondis pas.
Que tu répondes par oui ou par non, je coucherai avec toi. Alors dis-moi la vérité, ne sois pas prude.
Non.
Je voudrais bien pourtant. Quand tu m'aimeras, tout sera très simple.
Alors bien sûr, je t'aimerai, dis-je en souriant.
Je sais,
dit-elle.
Tu devrais aller dans l'eau. Je t'attendrai les yeux fermés, et quand tu remonteras, tu me surprendras avec ta peau mouillée. Vas-y.
Tu aimes jouer, n'est-ce pas ?
Vas-y. Je vais fermer les yeux.
L'eau me parut plus froide que dans l'après-midi, et lorsque je fendis la surface, me laissant aveuglément glisser jusqu'au fond, je fus traversé par un éclair de panique. Remonté en surface, je me mis à parcourir la longueur de la piscine, puis renager en sens inverse, puis reparti de nouveau, mais j'eus soudain la certitude qu'en sortant de l'eau, je ne trouverais plus Brenda. Je serais seul dans ce fichu endroit. Je nageais vers le bord, me hissais, courus vers les chaises longues, et Brenda était là, et je l'embrassais.
« Eh bien ?»
dit-elle en frissonnant.
« Tu n'es pas resté longtemps. »«
Je sais. »«
À mon tour. »
dit-elle. Elle se leva d'un bond et une seconde plus tard, j'entendis un léger craquement d'eau, et puis plus rien. Rien pendant un bon moment. « Bren ? appelai-je doucement. « Ça va ?» Mais je ne reçus aucune réponse. Je trouvais ses lunettes sur la chaise longue à côté de moi et je les gardais dans mes mains. « Brenda ?» Rien. « Brenda ?»«
Pas fair play »,
dit-elle en me gratifiant de son corps mouillé.
« À ton tour »,
dit-elle. Cette fois, je restais sous l'eau un long moment et lorsque je remontais à la surface, mes poumons étaient prêts à éclater. Je rejetai la tête en arrière pour respirer et au-dessus de moi, je vis le ciel, bas comme une main pesante, et je me mis à nager comme pour échapper à sa pression. Je voulais retourner vers Brenda car je craignais, il n'y avait pourtant aucune preuve à cela, n'est-ce pas, que si je restais trop longtemps, elle ne serait plus là à mon retour. Je regrettais de ne pas avoir emporté ses lunettes, de sorte qu'elle aurait dû m'attendre pour que je la reconduise chez elle. J'avais des pensées folles, je le savais, mais elles ne me semblaient pas incongrues dans l'obscurité et l'étrangeté de cet endroit. Oh, comme j'aurais aimé l'appeler. Je savais qu'elle ne répondrait pas et je me forçais à parcourir la longueur une troisième fois, puis une quatrième. Mais à mi-chemin de la cinquième, j'eus de nouveau un sentiment de crainte bizarre. Je pensais tout à coup à ma propre mort. Et cette fois, en remontant, je la serrai plus fort que nous ne l'avions prévu tous les deux.
Lâche-moi. Lâche-moi.
Dit-elle en riant.
À mon tour.
Mais Brenda était partie, et cette fois-ci comme si elle ne devait jamais revenir. Je m'allongeai et attendis que le soleil se lève à l'horizon, priant pour sa venue, ne fût-ce que pour le réconfort de sa lumière. Et lorsque Brenda revint enfin vers moi, je ne voulus pas la lâcher. Sa froide humidité me transperça et me fit frissonner. « Ça suffit, Brenda, je t'en prie, plus de jeu, » dis-je. Et quand je me remis à parler, je la tenais si serrée contre moi que je plantais presque mon corps dans le sien. « Je t'aime, » dis-je. « Je t'aime. »
Ma vie d'homme, paru en 1974, voit naître le personnage de Nathan Zuckerman. Alter ego de l'écrivain, il apparaît dans 10 de ses romans, le dernier étant Exit Fantôme, paru en 2007. Dans Ma vie d'homme, on fait la connaissance du tout jeune Zuckerman qui raconte ici ses aventures avec la fille d'amis de ses parents. Sharon était la fille, âgée de 17 ans, de Al Chatsky, le roi de la fermeture à glissière. Zuckerman l'avait rencontrée durant les 4 semaines qui s'étaient écoulées entre son examen à Basse et son incorporation dans l'armée en juillet. Avant leur rencontre, la mère de Zuckerman avait décrit Sharon comme une jeune personne accomplie et son père avait dit qu'elle était une charmante, charmante enfant. Aussi, Zuckerman n'était-il nullement préparé à voir la svelte amazone, aux cheveux roux et aux yeux verts, qui arriva ce soir-là, vêtue d'un short très court. C'était à qui des 4 parents la traiterait le plus comme un bébé, comme si cela avait pu convaincre l'étudiant de détourner les yeux de la vigoureuse courbe des cuisses jaillissant au-dessous du vêtement d'été sommaire. Zuckerman père dit que si Sharon avait quelques questions à poser au sujet de la vie à l'université, elle pouvait s'adresser à son fils qui avait été rédacteur en chef du journal de l'université à Basse. Zuckerman avait été rédacteur de la revue littéraire, mais il était maintenant habitué aux inexactitudes qui émaillaient les discours de ses parents lorsqu'il célébrait en public sa réussite. Ainsi, il était bienveillant et charitable envers tout le monde ce soir-là, quoique amusé par beaucoup de ce qu'il voyait et entendait. Il répondit aux questions des Chatsky sur la vie à l'université et, sans cesser, pendant tout ce temps, de s'appliquer inutilement à détourner les yeux des seins de leur fille, impertinent sous la chemise de polo rétrécie au lavage et de la friolante cage de son buste jaillissant de la taille svelte, mouvante, et de cette démarche de panthère qu'elle avait pour se déplacer à travers la moquette en prenant appui sur la partie arrondie de ses pieds nus à la naissance du gros orteil. Sharon commença ses études supérieures à Juliana Junior College, près de Providence. Tous les soirs, elle lui écrivait des lettres scandaleuses sur le papier à lettres roses, monogrammées et à bord dentelés que la mère de Zuckerman avait offert à la jeune personne accomplie à l'occasion de son départ à l'université. « Cher amour, pendant que je jouais au tennis dans la salle de gymnastique, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à me mettre à 4 pattes pour ramper à travers la chambre vers ta bite et à presser ta bite contre mon visage. J'aime ça, ta bite sur mon visage. Presser simplement ta bite contre mes joues, mes lèvres, ma langue, mon nez, mes yeux, mes oreilles. Plonger ta superbe bite dans mes cheveux et ainsi de suite. » Le mot qu'il lui avait appris, entre autres, et qu'il l'encourageait à employer pendant l'acte sexuel et aussi pour ses effets émoustillants au téléphone et dans ses lettres, exerçait une sorte de fascination sur la jeune fille, enfermée dans sa chambre d'étudiante de Rhode Island. Au lieu d'agir sur lui comme un aphrodisiaque, le style de Sharon l'agaçait par sa banale insistance. En particulier l'usage qu'elle faisait du mot « con » accompagné de l'épithète « ardent » et du mot « bite » accompagné de l'épithète « grosse » ou « superbe » ou les deux. C'était pratiquement du jour au lendemain, rectification, c'était du jour au lendemain, que la Vierge, dont le sang avait taché ses cuisses et agglutiné les poils de son pubis quand il l'avait allongé sur une couverture, sur les sièges arrière de la nouvelle Cadillac de son père, s'était transformée en la plus licencieuse créature qu'il eût jamais connue. En réalité, le maître n'avait pas autant d'avance sur son élève qu'il le faisait croire. Bien que naturellement, il garda pour lui sa surprise devant l'empressement qu'elle mettait à satisfaire chacun de ses caprices ou de ses désirs d'une fantaisie outrée. Avec Sharon, il lui suffisait de faire allusion à quelques acrobaties sexuelles, de montrer à mots couverts le plus léger intérêt pour un comportement pour qu'elle prenne la posture appropriée ou se présente avec l'équipement nécessaire. Comme Zuckerman ne manquait pas d'imagination et que Sharon était toujours empressée de le satisfaire, rares furent, en ce mois de juin, les soirs où il ne se passa pas quelque chose. Le sentiment d'aventure qui entourait leur amour, si tel est le terme qui convient, était encore renforcé par la présence, souvent, des quatre parents dans quelque autre partie de la maison ou derrière la maison, sur la terrasse, en train de boire du thé glacé et de bavarder allègrement. Tandis qu'il sodomisait Sharon par terre sous la table de ping-pong du sous-sol de la maison des Chatsky, Zuckerman criait de temps en temps « Bien joué !» ou « Joli revers, Sharon !» même si à ce moment, la jeune effrénée chuchotait dans la position canine « Oh, c'est étrange, ça fait mal, mais ça ne fait pas mal. Oh, Nathan, c'est si étrange !» Une situation vraiment piquante. Plus risqué qu'il n'eût voulu, ce n'était pas en étant courtois et généreux qu'Alchatsky s'était révélé au sommet de l'industrie de la fermeture à glissière, mais irrésistible. À l'invitation des adultes, il se rendait à la cuisine, tard dans la soirée, et là, comme de bons petits enfants, mangeait des bols à soupe, de débordantes portions de crème glacée arrosées de sirop. Dehors, sur la terrasse, les adultes riaient de l'appétit des deux gosses. Oui. Tels étaient les propres mots du père de Zuckerman, tandis que sous la table des deux côtés de laquelle ils étaient assis, Zuckerman amenait Sharon à l'orgasme avec son gros orteil. Le mieux de tout, c'était les représentations. Pour le plaisir de Zuckerman et à son instigation, Sharon allait dans la salle de bain et, laissant la porte ouverte et le plafonnier allumé, jouait pour lui comme si elle avait été sur une scène, tandis qu'assis dans la salle de séjour, plongé dans l'obscurité à l'autre bout du corridor, il faisait semblant de regarder l'écran de télévision. Une représentation consistait pour Sharon à détacher ses vêtements, très lentement, adroitement, à la manière d'une stripteaseuse professionnelle, et ensuite les petits sous-vêtements à ses pieds à introduire en elle divers objets. Pétrifié, Zuckerman regardait fixement à l'autre bout du couloir la jeune fille nue se contorsionner exactement comme il le lui avait recommandé, sur le manche en plastique de sa brosse à cheveux, ou sur son applicateur à gelée vaginale, ou une fois sur une courgette achetée à cette intention dans la journée. Voir cette longue courge verte, naturellement pas cuite, pénétrer dans le corps de Sharon et en émerger, voir la fille du roi de la fermeture à glissière, assise sur le bord de la baignoire, jambes écartées, en train d'abandonner lascivement son mètre 75 de chair à légumes, était un spectacle aussi mystérieux, aussi fascinant que tous ceux auxquels avait jamais pu assister aucun des Zuckerman au cours de leur vie, de leur propre aveu séculière. Presque aussi émouvant que de la voir ramper vers lui sur toute la longueur de la salle de séjour des Chatsky, ce soir où, les yeux à la hauteur de son membre exhibé, la langue tirée et remuante, elle lui murmurait, sans y avoir été incitée, « Je veux être ta putain ». Pendant que derrière la maison, sur la terrasse, Mrs. Chatsky expliquait à Mrs. Zuckerman combien Sharon était adorable dans le manteau d'hiver qu'elles avaient acheté l'après-midi.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should
never leave me. Though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Portnoy et son complexe. Portnoy's Complaint, 1967. C'est le grand succès de Philip Roth, le livre qui l'a fait connaître au grand public.
Je me rappelle le choc qu'a été quand même la lecture de Portnoy, et lorsqu'il me racontait comment ce livre scandaleux scandalisait les juifs new-yorkais. Il se faisait gifler dans la rue, savez-vous ça, hein ?
Peut-être intéressant de dire, Philip Sellers, pourquoi est-ce que ce livre a tellement scandalisé les juifs de New York ?
C'est le fait d'un juif qui adore les chics, c'est-à-dire les femmes non-juives. Non, parce que un juif ne se masturbe jamais, c'est connu. Donc là, le livre était à mourir de rire, et avec une crudité qui était tout à fait insolente, insolite à ce moment-là, c'est-à-dire un juif de Newark, c'est-à-dire qui ne porte pas la culpabilité européenne sur son dos, quelqu'un qui est complètement américain.
L'histoire, Alexander Portnoy a 33 ans, il vit à Newark où il a grandi au sein d'une famille de confession juive. Ses parents rêvent de le voir s'enraciner avec une fille, mais il n'y entend rien. Ce qui l'intéresse justement chez les femmes, c'est de les collectionner. Tout au long du roman, il se confie à son psychanalyste, déblatérant sur son unique obsession, le sexe. Pianiste. Ah, ça, c'est l'un des mots que les parents adorent. Presque autant que docteur et résidence. Et par-dessus tout, son propre bureau. Il a ouvert son propre bureau à Livingstone. Tu te rappelles Seymour Schnock, Alex ? Me demande ma mère. Ou Aaron Spin. Ou Howard Zobbs. Ou je ne sais quel connard que je suis censé avoir connu en classe il y a 25 ans et dont je n'ai pas l'ombre d'un souvenir. Figure-toi que j'ai rencontré sa mère dans la rue aujourd'hui et elle m'a dit que Seymour est actuellement le plus grand chirurgien du cerveau de toute l'hémisphère occidentale. Il possède 6 différentes maisons basses de style ranch, il appartient au conseil de 11 synagogues et l'an dernier avec sa femme et ses 2 petites filles qui sont si jolies et si brillantes, il les a emmenées en Europe pour un voyage de 80 millions de dollars dans 7000 pays différents. Et en plus de ça, il est tellement important, Seymour, que dans chacune des villes d'Europe qu'ils ont traversées, le maire en personne lui a demandé de s'arrêter le temps d'effectuer des opérations de cerveau impossibles. Voilà le grand homme qui est devenu ton ami Seymour aujourd'hui. Quel bonheur il donne à ses parents. Et toi, tel est le sous-entendu, quand vas-tu enfin te marier ? À Newark et dans les faubourgs environnants, cette question est apparemment sur toutes les lèvres. Quand Alexander Portnoy va-t-il enfin cesser d'être égoïste pour donner à ses parents qui sont des gens si merveilleux des petits-enfants ?
Alors, dit mon père, les larmes au bord des yeux, alors, s'enquiert-il absolument chaque fois que je le vois, y a-t-il une fille sérieuse en perspective, grand chef? Excuse-moi de te poser la question, je ne suis que ton père, mais je ne vais pas vivre éternellement, et toi, au cas où tu l'oublierais, tu portes le nom de la famille, alors je me demande si tu ne pourrais peut-être pas me mettre dans le secret. Ouais. Honte, honte à Alex P., le seul représentant de sa promotion qui n'a pas fait les grands-parents de sa maman et de son papa. Alors que tous les autres ont épousé des gentilles filles juives, fait des enfants, acheté des maisons et, selon la phrase de mon père, se sont enracinés. Alors que tous les autres fils ont assuré leur postérité, eh bien voilà ce qu'il a fait, lui, il a chassé le con. Chassé, reniflé, lapé, mais par-dessus tout, il y a pensé. Jour et nuit, au travail et dans la rue, avec les yeux hors de la tête. Un vrai miracle qu'il n'ait pas été réduit en bouillie par un taxi, étant donné la façon dont il traverse les grandes artères de Manhattan à l'heure du déjeuner. 33 ans et toujours à mater et à se monter le bourrichon sur chaque fille qui croise les jambes en face de lui dans le métro. Toujours à se maudire de ne pas avoir adressé la parole à la succulente paire de nichons qui monte à 25 étages seul avec lui dans l'ascenseur. Que fait-il de lui-même, cet imbécile, ce crétin, ce sournois, cet obsédé sexuel? Tout simplement, il ne peut pas, ne veut pas réprimer le feu qui lui ronge le chibre, la fièvre qui lui délabre le cerveau, le désir qui le dévore en permanence, de l'inédit, du neuf, de l'extravagant, du jamais conçu, et si vous êtes capable d'imaginer une chose pareille, du jamais rêvé. En matière de con, il continue à vivre dans un état qui ne s'est jamais démenti et n'a subi aucun raffinement sensible depuis qu'il avait 15 ans et ne pouvait se lever de son banc en classe sans cacher sa trique derrière son cahier à trois anneaux. Chaque fille qu'il voit s'avère, tenez-vous bien, pourvue entre les jambes d'un con véritable, stupéfiant, époustouflant. Il n'arrive pas à se débarrasser de l'idée fantastique que lorsque l'on regarde une fille, on regarde quelqu'un qui possède, c'est absolument garanti, un con. Et docteur, votre honneur, quel que soit votre titre, peu importe, semble-t-il, ce que se tape en fait ce pauvre minable, puisqu'il rêve déjà de la chatte de demain, alors qu'il est en train de tringler celle d'aujourd'hui. J'exagère? Cette façon de me noircir n'est-elle qu'un truc habile pour la ramener? Ou me vanter peut-être? Cette insatisfaction, cette trique permanente, est-ce que je les ressens vraiment comme une affliction ou une performance? Les deux? Ou n'est-ce qu'un moyen d'évasion? Écoutez, au moins je ne me retrouve pas encore au début de la trentaine, bouclé dans un mariage avec une charmante créature dont le corps a cessé de présenter pour moi le moindre intérêt réel. Mais je dois admettre qu'il y a peut-être d'un certain point de vue quelque chose de déprimant dans ma situation aussi. Et la question à laquelle je suis prêt à faire face est celle-ci. Ai-je quelque chose? Combien de temps vais-je encore continuer à coller ce machin dans les trous qui s'offrent à lui? Quand cela finira-t-il? Seulement, pourquoi ça devrait-il finir? Pour faire plaisir à un père et à une mère? Pour se conformer à la norme? Pourquoi diable faudrait-il que je sois tellement sur la défensive pour être ce qu'on appelait honorablement il y a quelques années un célibataire? Après tout, ce n'est rien de plus, vous savez, le célibat. Alors quel est le crime? La liberté sexuelle? À l'époque où nous vivons? Je ne maltraite pas les dames, je ne leur tords pas le bras pour les mettre au lit avec moi. Je suis, si je puis dire, un homme sincère et compatissant. Permettez-moi de le déclarer à côté des hommes d'aujourd'hui, je... Mais pourquoi faut-il que je m'explique moi-même, que je m'excuse moi-même? Pourquoi dois-je justifier avec ma sincérité et ma compassion mes désirs? Donc j'ai des désirs, oui. Seulement ils sont sans fin. Sans fin. Le sein, The Breast, 1975, Philippe Roth. Dans Le Sein, paru en 1972 en Amérique, Philippe Roth débute la narration des aventures de David Kepesh, personnage que l'on retrouve après dans Le Professeur de Désir et La Bête qui meurt. Dans la lignée des romans tels que Le Nez de Gogol ou encore La Métamorphose de Kafka, il raconte comment Kepesh s'est transformé en sein. Je suis un sein. Un phénomène qui m'a été décrit tour à tour comme un afflux massif d'hormones, une catastrophe endocrinopathique et où une explosion chromosomique de caractère hermaphrodite s'est produite dans mon corps entre minuit et 4h du matin le 18 février 1971 et m'a transformé en une glande mammaire qui n'est reliée à aucun corps humain. Une glande mammaire telle, aurait-on pu croire, qu'on n'en pouvait voir qu'en rêve ou sur une peinture de Dali. L'essentiel de ma masse est un tissu adipeux.
À l'une de mes extrémités, je suis arrondi comme une pastèque. À l'autre, je me termine par un tétin de forme cylindrique formant sur mon corps une saillie de 5 pouces et perforé au bout de 17 ouvertures dont chacune a environ la moitié de la dimension d'un méat urinaire masculin. On m'a dit que ce sont les orifices des conduits lactifères. Ma chair est élastique et jeune, et d'après eux, j'appartiens toujours au type caucasien. Mon tétin est d'un rose vif, comme était la tache que j'avais découverte à la base de mon pénis en me mettant sous la douche où tout cela m'est arrivé. Comme les orifices de mon tétin me servent à quelque chose rappelant de loin les fonctions de la bouche et des oreilles, du moins suis-je capable de me faire comprendre par mon tétin et d'entendre vaguement ce qui se passe autour de moi. J'avais d'abord supposé que c'était ma tête qui était devenue tétin. Les docteurs, cependant, font une autre hypothèse et soutiennent maintenant que la peau plissée, grenue du tétin, qui, il faut le reconnaître, est au toucher d'une sensibilité exquise que ne possède aucun tissu du visage, pas même la muqueuse des lèvres, s'est formée à partir du gland du pénis. De la même manière, l'auréole foncée et rosâtre qui entoure le tétin et contient le système musculaire qui le durcit quand je suis en érection est, d'après eux, la tige du pénis métamorphosée. Au début, je sanglotais presque continuellement, n'ajoutant foi à aucune des explications hormonales que le docteur Gordon et ses confrères continuaient à me proposer de ma maladie. Et puis un matin, épuisé, anéanti, par tant de jours passés à pleurer sans verser de larmes, je me sentis durcir et me redresser. Une douce palpitation se produisit au voisinage de ce que je prenais encore pour mon visage, une sensation agréable d'engorgement. On était en train de me laver. Ça vous plaît, hein ? La voix était celle d'un homme, celle d'un inconnu. « Qui êtes-vous ? Où suis-je ? » ? Je suis l'infirmier. C'est agréable. Je pouvais maintenant sentir chacun des doigts qui me touchaient. Et puis quelque chose se déplaça sur moi en cercle lent, moelleux, la douce paume de sa main. « Oh ! Oh ! » m'écriai-je, tandis que l'exquise sensation d'imminence qui précède une éjaculation parfaite parcourut tout mon être. « Oh, c'est si bon ! » Puis je fus pris de sanglots irrésistibles et finalement il fallut m'endormir. Professeur de désir, publié en 1977 en France. Dans Professeur de désir, Philippe Roth poursuit la narration des aventures de David Kepesh. Ici, il opère un retour en arrière, nous renseignant sur la jeunesse de son personnage. Il raconte les années d'université du jeune Kepesh et ses premières aventures sexuelles.
Les filles après lesquelles je cours. D'habitude, je les drague dans la salle de lecture de la bibliothèque, un endroit comparable au promenoir d'un music hall par son pouvoir de stimuler et d'aiguiser mes désirs. Toutes les tendances imparfaitement réprimées chez ces jeunes bourgeoises américaines bien habillées et bien élevées, aussitôt apparentes, ou plus souvent aussitôt imaginées, dans cette atmosphère universitaire révélatrice. Je regarde, fasciné, la fille qui joue avec le bout de ses mèches de cheveux, tout en étudiant ostensiblement son histoire, alors que j'étudie ostensiblement la mienne. Une autre fille, parfaitement effacée, et la veille même tassée sur sa chaise en classe, va se mettre à balancer la jambe sous la table de la bibliothèque, tout en feuilletant négligemment un numéro du magazine Look. Et mes convoitises ne connaissent plus de bornes. Une troisième se penche en avant sur son cahier, et avec un grognement étouffé, comme si l'on m'empalait, j'observe ses seins sous sa blouse qui s'arrondissent, pressés entre ses bras croisés. Comme j'aimerais être ses bras. Oui, un rien suffit à me lancer à la poursuite d'une parfaite inconnue. Un rien, je dis bien par exemple le fait que, tout en prenant des notes dans l'encyclopédie de la main droite, elle ne peut s'empêcher de tracer des cercles sur ses lèvres du bout de l'index de la main gauche. Je refuse, par une incapacité que j'érige en principe, de résister à ce que je trouve irrésistible, si absurde et tordu, puéril et perverse que puisse paraître à tout autre que moi l'origine de mes désirs. Bien entendu, ceci m'entraîne à rechercher des filles que je trouverais en d'autres circonstances banales ou stupides ou rasantes, mais je suis avant tout convaincu que leur banalité n'est pas définitive et que mon désir étant le désir, il ne doit pas être minimisé ou traité par le mépris. « Je t'en prie, implore-t-elle, pourquoi ne veux-tu pas simplement qu'on discute gentiment ? Tu peux être si gentil quand tu veux. » « Oui, il paraît. » « Mais tu ne te rends pas compte, c'est mon corps, rien de plus. Je ne veux pas avoir de rapport avec toi à ce niveau. » Tu n'as pas de chance. Personne n'y peut rien. Ton corps est sensationnel. Ah, ne recommence pas sur ce ton. Ton cul est sensationnel. Je t'en prie, ne sois pas grossier. Tu ne parles pas comme ça en classe. J'adore t'écouter, mais quand tu m'insultes de cette façon, t'insulter, c'est un grand compliment. Tu as un cul merveilleux, parfait, Ça devrait te griser d'en avoir un pareil. Il me sert simplement à m'asseoir, David.
Tu parles. Demande donc aux filles qui ne l'ont pas comme toi si elles ne seraient pas prêtes à en faire l'échange. Ça pourrait te ramener à la réalité.
Je t'en prie, arrête de te moquer de moi et de me lancer des vannes. Je t'en prie, vraiment.
Mais je ne me moque pas de toi. Personne ne te prend plus au sérieux que moi. Ton cul est un chef-d'œuvre. Pas étonnant qu'en terminale, je me sois acquis une terrible réputation parmi les filles du club féminin dont j'ai tenté de séduire les sœurs avec ma candeur agressive particulière. Avec une telle réputation, on pourrait croire que j'ai déjà réduit une centaine d'étudiantes à la condition de putain, alors qu'en vérité, je n'ai réussi de pénétration complète que dans deux cas et une semi-pénétration en deux autres occasions.
Lovers, d'Isabelle Coixet, d'après La Bête qui meurt, de Philippe Roth.
Elle a dû faire l'amour avec toi par curiosité. Maintenant, elle pourra dire à ses amis à quoi ressemble un homme de ton âge dans le plus simple appareil.
Je suis une nouvelle expérience pour elle. Elle en aura d'autres. Elle se souviendra de moi comme le petit vieux qui lui aura élargi un peu sa culture.
Bah, d'abord, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, tu devrais arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois avoir peur de prendre de l'âge. Et par conséquent, de ne plus pouvoir baiser.
La Bête qui meurt clôt le cycle David Kepesh. Ce dernier est maintenant un prof vieillissant, un septuagénaire hanté par le fantôme de l'impuissance. Amateur de jeunes femmes, il courtise une de ses étudiantes, Consuela Castillo. Pétri d'inquiétude et de désillusion, Kepesh s'adresse à l'interlocuteur muet et lui décrit sa dépendance au sexe et à cette magnifique jeune femme. Je suis sensible à la beauté féminine, tu le sais. Chacun ses faiblesses, telle est la mienne. Je vois cette beauté et elle me rend aveugle à tout le reste. Dès que ces filles viennent à mon premier cours, je sais presque tout de suite laquelle sera pour moi. Mark Twain a écrit une nouvelle où le héros, poursuivi par un taureau, se réfugie dans un arbre. La bête le regarde d'en bas tout en pensant « Toi, mon petit monsieur, je vais te croquer. » Il suffit d'y substituer ma petite demoiselle pour rendre mon impression au premier cours. Ça fait maintenant 8 ans. J'avais déjà 62 ans. La fille, qui s'appelle Consuela Castillo, en avait 24. Elle n'était pas comme les autres. Elle n'a pas l'air d'une étudiante, ou du moins d'une étudiante banale. Ce n'est pas une adolescente attardée, une gamine avachie et négligée qui ponctue ses phrases de « je veux dire ». Elle s'exprime bien, elle est réservée, son maintien irréprochable. Il y a sa façon de s'habiller. Ce n'est pas exactement du chic. Moins encore un chic voyant, mais d'abord, elle n'est jamais en jean, repassé ou non. Elle s'habille avec soin, avec bon goût. Elle porte des jupes, des robes, des pantalons bien coupés. Pas pour se désérotiser, mais plutôt pour se professionnaliser, dirait-on. Elle porte un chemisier de soie crème sous un blazer bleu marine à boutons dorés avec une pochette de cuir marron, dont la patine dit le prix, et une paire de bottines assorties, le tout avec une jupe en maille grise, légèrement extensible, qui révèle les courbes de son corps autant que le puisse ce type de vêtement. Elle est coiffée avec un naturel étudié, elle a le teint pâle et des lèvres pleines, ourlées d'un arc précis, le front bombé, un front poli, d'une élégance lisse à la Brancusi. Elle est cubaine. Elle a le cheveu noir, noir et brillant, quoiqu'un peu rêche, et elle est grande. C'est une femme imposante. Son chemisier de soie est ouvert jusqu'au troisième bouton, et tu vois qu'elle a des seins puissants, superbes. Tu en vois tout de suite le sillon, et tu vois qu'elle le sait. Tu vois bien que malgré sa décence, sa méticulosité, son style soigné et sans ostentation, ou à cause de tout ça justement, elle est consciente de l'effet qu'elle produit. Ce corps est encore tout neuf pour elle, en rodage, au stade de l'inventaire. Elle est comme un gosse qui arpenterait les rues avec un flingue chargé sans savoir au juste s'il l'a emporté pour se défendre ou pour entamer une vie criminelle. Bon cœur, visage adorable, œil qui invite et tient à distance tout à la fois, sein voluptueux, cette femme est de si fraîche couvée qu'on ne s'étonnerait pas de voir des éclats de coquilles adhérer encore à son front ovoïde. J'ai su tout de suite qu'elle était pour moi.
Qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?
Qu'est-ce que j'attends de toi ?
Ta vie, toute ta vie, tu es passée d'une femme à une autre sans jamais t'engager. Alors j'ai le droit de savoir ce que je représente pour toi. Le fait que tu sois jaloux et possessif ne m'aide pas. Pas du tout. Les enfants aussi sont jaloux de leurs jouets jusqu'au jour où ils en ont marre, les jettent et en exigent d'autres.
Deuxième extrait de La Bête qui meurt.
La jalousie, ce poison. Jaloux même quand elle me disait qu'elle allait à la patinoire avec son frère de 18 ans. Est-ce que c'est lui qui me la volera? Dans ces liaisons qui tournent à l'obsession, tu n'as plus ton assurance habituelle. Surtout quand tu es en plein dans le cyclone et que la fille a le tiers de ton âge. J'ai des inquiétudes quand je lui téléphone tous les jours. Puis j'ai des inquiétudes après avoir raccroché. Par le passé, les femmes qui exigeaient des appels quotidiens, des échanges de coups de fil, je m'en débarrassais systématiquement. Et voilà que c'est moi qui exige d'elle ma dose quotidienne de téléphone, sinon je suis en manque. Pourquoi est-ce que je l'encense au fil des conversations? Pourquoi je n'arrête pas de lui chanter combien elle est parfaite? Pourquoi j'ai toujours l'impression d'avoir dit ce qu'il fallait pas? Je suis incapable de me faire une idée de ce qu'elle pense de moi, de ce qu'elle pense de tout. Et mon désarroi me pousse à dire des choses qui sonnent faux, ou qui me paraissent excessives moi-même. Si bien que je raccroche plein d'une rancune muette envers elle. Mais quand, chose rare, je réussis à passer une journée sans l'appeler, sans lui parler, sans la flatter, sans sonner faux, c'est pire. Je me lance dans une activité fébrile et rien de ce que je fais ne m'apaise. Les soirs où elle n'est pas avec moi, je me torture à me demander où elle est et ce qu'elle peut bien fabriquer. Mais même quand elle vient passer la soirée, une fois qu'elle est retournée chez elle, impossible de fermer l'œil. Être avec elle est une expérience trop forte. Je me redresse dans mon lit et je crie au cœur de la nuit « Consuela Castillo, fous-moi la paix !» Ça suffit, je me dis. Lève-toi, change tes draps, reprends une douche, débarrasse-toi de son parfum. Et puis débarrasse-toi d'elle. Il le faut. Pas de paix possible, aujourd'hui ni demain. À cause de notre différence d'âge. Différence que je vis douloureusement. C'était la première fois que j'avais 62 ans. Je n'étais plus dans la phase de la vie où on croit que tout vous est possible. Mais c'est une phase que je me rappelais très bien. Cette phase d'insouciance. Tu montes dans le bus, tu y vois une créature si somptueuse que personne n'ose s'asseoir à côté d'elle. À côté de la plus belle fille du monde, il y a un siège et il est vacant. Alors tu le prends. Mais je n'en suis pas là. Plus jamais je ne connaîtrai le calme, la paix. Ça m'inquiète qu'elle se promène avec ce chemisier. Sous la veste, le chemisier. Et sous le chemisier, la perfection. Un jeune homme va la trouver et il va l'emporter. Il va me la voler, à moi. Qui ai mis le feu à ses sens, qui lui ai donné sa stature, moi le catalyseur de son émancipation, moi qui l'ai préparé pour lui. Comment est-ce que je sais qu'un jeune homme va me l'enlever? Parce que je le fus jadis, le jeune homme qui l'aurait fait. Et moi, comment contenir Consuela? Idée mortifiante, mais qui me vient pourtant. Et c'est là que la pornographie entre en scène. La pornographie de l'autodestruction. Je suis ravi, je suis ensorcelé, mais voilà, ensorcelé hors jeu. Et qu'est-ce qui me met hors jeu? L'âge. La blessure de l'âge. La pornographie, sous sa forme classique, agit 5 ou 10 minutes avant de tourner au comique. C'est une représentation, une forme d'art dévoyée. Ça n'est même plus de l'illusion, la mauvaise foi y est flagrante. La fille du porno, tu as envie d'elle, mais t'es pas jaloux du type qui la baise, parce qu'il devient ton substitut. Dans ma pornographie, tu ne t'identifies pas au type satisfait, mais à celui qui n'aura rien, qui est en train de perdre, qui a déjà perdu. Un jeune homme va la trouver et l'enlever. Je le vois, lui. Je le connais. Je sais de quoi il est capable, parce que c'est moi à 25 ans, sans femme encore ni enfant. C'est moi à l'état brut, avant que j'aie fait comme tout le monde. Je le vois la regarder traverser la vaste esplanade du Lincoln Center. Il est caché derrière un pilier, invisible, l'œil sur elle, comme moi, le soir où je l'ai emmené à son premier concert de Beethoven. C'est une jeunesse ravageuse, lâchée dans la tiédeur d'une nuit d'automne. Elle arpente les rues du monde sans vergogne, offerte au désir, à l'admiration, et elle sourit. Elle est heureuse. Elle a rendez-vous avec moi, cette jeunesse ravageuse. Sauf que dans ce porno, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est l'homme que je fus, mais que je ne suis plus. À le regarder, la regarder, je connais par le menu la suite des événements, et sachant la suite, me la représentant, j'abdique. Tout bon sens salutaire. Il m'est impossible de penser que tout le monde ne la voit pas du même œil que moi, cette fille. Que tout le monde ne partage pas mon obsession. Au contraire, je ne peux plus l'imaginer aller nulle part. Je ne peux plus l'imaginer dans la rue, dans un magasin, à une soirée, à la plage, sans que ce type sorte de l'ombre. La voilà, la pornographie. Elle consiste à regarder faire l'homme que tu fus jadis.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air. Regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou. Voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils. La mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Parfois, ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole. Les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes. Les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare bleu, blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elle, affiaire, sur leurs escabeaux en l'air. Regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère.
Citation de Philip Roth. Écrire, c'est mon travail quotidien. Je ne saurais que faire de moi et de ma vie si j'arrêtais. Dans l'écriture, le travail est essentiel. Seuls les amateurs attendent l'inspiration. On n'écrit pas forcément pour toucher un grand nombre de lecteurs. Quand vous écrivez, le lecteur le plus important, celui qui compte, c'est vous-même. Le vrai écrivain n'est pas celui qui raconte des histoires, mais celui qui se raconte dans l'histoire, la sienne et celle plus vaste du monde dans lequel il vit. Les écrivains, c'est moins étonnant qu'il n'y paraît, se divisent comme le reste de l'humanité entre ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. On aura beau tout savoir, tout manigancer, tout organiser, tout manipuler, penser à tout, le sexe nous déborde. Je commence généralement un livre avec rien, sinon l'idée de Monsieur X placé dans une situation difficile, Y. Ce qui suit durant l'année ou les deux années suivantes est ma façon de découvrir qui est Monsieur X. Ses origines, ses préoccupations, ses passions, ses désirs, ses antagonismes. Ainsi que la nature et les dimensions exactes de la situation difficile en question. La clé de la réussite littéraire, c'est de trouver le bon X pour la situation Y, et vice-versa.
La couleur du mensonge, d'après La Tâche, de Philip Roth.
Vous voulez que j'engage des procédures pour vous sur deux fronts à la fois, contre un correspondant anonyme et contre un fou. Je connais un très bon expert graphologue, je saurais vous trouver un gilet pare-balles. Mais il y a une chose pour laquelle je ne pourrais vous être d'aucune utilité tant que vous fréquenterez cette femme. Je ne pourrais jamais vous procurer une vie sans scandale. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas séropositive? Elle a fait un test au moins? Est-ce que vous mettez des préservatifs? Renonce à cette fille, Achille. J'ai suivi votre cours sur les origines de la littérature européenne il y a bien des années de ça, à la fac. Renoncez à cette fille et vos ennuis seront terminés. Fonia Farley n'est pas de votre monde. Elle n'en vaut pas la peine. Achille qui prendrait du Viagra. C'est absurde.
Ah, Nelson. Nelson, pour ce qui est d'éloquence, vous êtes un maître. Et cette faculté incroyable que vous avez de traiter les problèmes humains par le mépris.
Écoutez, je vous ai dit...
Je ne veux plus jamais avoir à supporter ce discours plein d'autosatisfaction.
La Tâche signe le brillant retour de Philip Roth au début des années 2000. Il y met en scène un universitaire à la retraite, Coleman Silk, qui s'éprend d'une jeune femme de ménage, trentenaire et illettrée. Il raconte ses aventures à Nathan Zuckerman, son voisin écrivain.
L'affaire Clinton-Lewinsky constitue la toile de fond de ce roman qui, en plein sursaut de puritanisme américain, semble cependant indiquer qu'une autre Amérique est possible, celle qui se moque du qu'en dira-t-on. Il a cessé de lire en entendant à la radio les premières mesures de Bewitched, Bothered and Bewildered chantées par Sinatra.
Il faut que je danse.
Vous dansez ? Je me suis mise à rire. Non, ce n'était plus le personnage féroce, amer, en état de siège, qui avait pris la vie en aversion parce qu'elle le rendait fou. Ce n'était pas même un autre homme, c'était une autre âme. Une âme de gamin, plein d'élan, espiègle. Un diablotin même, un faune, un chèvre-pied au nez retroussé. D'accord, mais vous ne chantez pas dans l'oreille.
Allez, debout.
On s'en fout, on sera bientôt morts tous les deux de toute façon. Alors je me suis levé. Et là, sur la terrasse, Coleman Silk et moi, nous nous sommes mis à danser le foxtrot. Il conduisait, je le suivais de mon mieux. Il n'y avait rien d'ouvertement charnel dans ce contact, mais du fait que Coleman portait un short en jean pour tout vêtement et que ma main reposait aussi naturellement sur son dos tiède que sur celui d'un chien ou d'un cheval, c'était plus qu'une parodie. Il me guidait sur ce sol en pierre avec une sincérité à demi-sérieuse. Sans parler du bonheur spontané d'être en vie, envie par la bouffonnerie du hasard, envie sans raison, le bonheur qu'on éprouve enfant lorsqu'on vient d'apprendre à faire de la musique avec un peigne et du papier hygiénique. C'est seulement quand nous nous sommes rassis que Coleman m'a parlé de sa maîtresse.
Je ne suis pas son professeur. Je ne suis plus le professeur de personne. J'ai enseigné, j'ai corrigé, j'ai fait passer des examens, j'ai éclairé les esprits. Je suis à la retraite. Je suis un homme de 71 ans avec une maîtresse de 34 ans, ce qui me rend indigne dans notre bon état du Massachusetts de donner des leçons à qui que ce soit. Je prends du Viagra, Nathan. C'est ça, la belle dame sans merci. Toute cette turbulence, ce bonheur, je les dois au Viagra. Sans le Viagra, je vivrais rien de tout ça. Sans le Viagra, j'aurais une image du monde appropriée à mon âge et des intentions toutes différentes. Sans le Viagra, j'aurais la dignité d'un vieux monsieur libéré du désir et qui se conduit comme il faut. Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'insensé. Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'inconvenant, de téméraire, qui m'attire l'opprobre et qui risque d'être désastreux pour toutes les personnes concernées. Sans le Viagra, je continuerais sur le déclin de mon âge à entretenir la largeur de vue détachée d'un homme de culture et d'expérience qui a pris sa retraite à l'issue de bons et loyaux services après avoir longtemps renoncé au plaisir de la chair. Je continuerai de tirer des conclusions philosophiques profondes sur l'existence et d'avoir une influence morale apaisante sur les jeunes, au lieu de me replonger dans ce perpétuel état d'urgence qu'est l'intoxication sexuelle. Grâce au Viagra, je viens de comprendre les transformations amoureuses de Zeus. C'est comme ça qu'on aurait dû appeler le Viagra, du Zeus.
Est-il stupéfait de me faire ses confidences ? C'est bien possible. Mais il s'en trouve trop animé pour s'arrêter. La pulsion est la même que celle qui l'a poussé à danser avec moi. Il y a le désir de laisser sortir la bête en lui, de libérer cette force, l'espace d'une heure, de deux heures, peu importe la durée, de donner libre cours à la nature. Il est resté marié longtemps, il a eu des gosses, il a été doyen de la faculté. Pendant 40 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait du boulot, et la nature, la bête en lui, il les a remisées dans une boîte. Or voilà que cette boîte est ouverte. Le doyen, le père, le mari, l'universitaire, le lecteur de livres, le conférencier, celui qui corrigeait les devoirs, qui mettait des notes, c'est fini. Certes, à 71 ans, on n'est plus la bête joyeusement assoiffée de sexe qu'on était à 26, mais il reste des vestiges de la bête, des vestiges de la nature, et il renoue avec les vestiges. Pourquoi me le raconter ? Parce que pour qu'il puisse s'y abandonner librement, il faut que quelqu'un sache. Il est libre de s'abandonner, me disais-je, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'il n'y a pas d'avenir, parce qu'il a 71 ans et elle 34. Ces 37 années d'écart lui donnent beaucoup de licence. Il n'est pas là pour apprendre, pour faire des projets, mais pour l'aventure. Il est dans cette liaison pour la même raison qu'elle, pour le plaisir.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Olivier Dupré. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Irène Menahem. Merci beaucoup. Bonne soirée, à la semaine prochaine.